Et maintenant ?
Et oui, et maintenant ?
Maintenant, écoutez lire.
Faisons une petite pause pour l'été et retrouvons les auteurs amateurs qui ont répondu à l'appel de Radio Alto. Ils nous ouvrent leur univers et nous font entendre leur petite musique. Écoutons. Aujourd'hui, de Marie-Christine Thévenet, Clair de lune au Nivolet, de Christian Lamorte, Balade en numérique, et de Henri Pochat, J'étais là, c'est tout. De Marie-Christine Thévenet, Clair de lune au Nivolet. Marie se rappelle cette échappée nocturne brumale à la croix du Nivolet. Par chance, il avait floconné toute la journée. Une certaine impatience fébrile gagne le groupe d'employés en attente de cette soirée. Parti en covoiturage de Chambéry, il arrive au Cire et se gare sur le parking du chalet éponyme. La nuit est là. Les voitures se vident, les portières claquent, clé de sol à l'ouverture d'une rhapsodie de palabres, papotages, commérages. Raquettes chaussées, gants et bonnets enfilés, lampes frontales ajustées, pour le fun, car pas vraiment justifiées par cette obscurité illuminée. Le groupe, joyeux et indiscipliné, commence l'ascension de la colline derrière le chalet-restaurant. On discerne déjà les sportives aguerries en tête de file, des lambdas volontaires pour cette grande aventure. Quelques situations cocasses déclenchent des fous rires, emmêlement de bâtons, déséquilibre et chute dans cette fraîche qui taquine, farde en yéti givré les plus maladroits. Nuit magique, de pleine lune pleine d'étoiles, du firmament indigo, les constellations poudrent la neige d'infimes poussières scintillantes. Les joues et les bouts de nez rougissent à la morsure du froid et les souffles exhalent des esprits follets, tandis que la puff, froide, froufroute sous le poids de chaque pas, la traçant d'empreintes de passage. Comme une féerie qui se déploie, intermittente parmi les arbres de la forêt, la nuit vibre d'interpellations émises par le fin cordon d'iodes sinueuses. Marie est accompagnée de son fils Jérémy, 10 ans, et de son frère de cœur, Julien, de 2 ans son Benjamin. Les deux garçons, sans vergogne, de toute leur jeune vitalité, pataugent la neige à grandes enjambées et prennent vite de la distance. Farfadets bambocheurs, tout en enchantement, on entend l'écho de leur sarabande corrompre les nébulosités nocturnes. À mi-chemin, au loin, du haut de sa falaise calcaire et en bout de promontoire, la croix se profile, intriguée et curieuse. De fil en aiguille, le groupe s'est effiloché. Les plus vaillants n'ont plus qu'une centaine de mètres à parcourir, dont Marie, moins par esprit de compétition que par souci de vigilance auprès des ados. La dernière partie de la randonnée est la plus raide, mais dès qu'on arrive au pied de cette dame monumentale, 70 tonnes pour 2 mètres de circonférence, du haut de ses 21,50 m, elle nous accueille, protectrice, bras tendus. À son origine, croix des pénites en noir, elle côtoyait un gibet à Chambéry, en confidente funeste des dernières repentances. À la faveur du développement de la ville, grâce au choix du comte de Ferney de Mongex, elle est déportée à l'emplacement de la croix des Raffourniers sur la dent du Nivolet, tout près des nuages, comme l'indique son nom latin, Nebulatus, dixit Jean-Marie Jeudy. Très en vue, elle est adage pour tout Chambérien qui lorgne de son côté par temps incertain. Quand la croix du Nivolet met son bonnet, Chambéry prend son parapluie. Monsieur Minelot, chef de groupe, met tout son zèle à conter l'épopée de cette construction. Ainsi, de 1861 à 1989, elle subit ouragan, attentats, foudre et vandales. Conséquence de ces outrages, initialement en bois, elle se consolide en charpente métallique étamée de fer blanc, puis béton armé plaqué d'aluminium. En rétablissant une ancienne ligne électrique, EDF permet un allumage protégé à distance de ses projecteurs et au passage l'électrification de son hameau. Marie se souvient du soir du 2 juillet 1960. Avec sa grand-mère, main dans la main et nez en l'air, elles ont attendu son illumination décidée en célébration du centenaire du rattachement de la Savoie à la France. Cette nuit, les rambardes métalliques qui entourent la falaise se sont malicieusement emmitouflées de neige et dédaignent leur rôle de garde du corps à ces incongrues d'heures tardives. En apesanteur entre l'infini bleu de minuit et la cluse chambérienne, envie de voler pour toucher là-haut à portée de doigt la bulle opalescente et là-bas, en bas, tout en bas, Chambéry, Aix-les-Bains et les alentours, myriades de petits follets luisants. Et au fond, en clair-obscur, le lac du Bourget, qui donne sa langue au chat. Tout doucement, le froid mordant gagne les corps fatigués, écourtant la pause contemplative. La descente du retour se fait par le même chemin. La randonnée se prolonge par un repas au chalet du Sire, refuge tenu par un sieur extravagant nommé Carcasse. De prime abord, l'homme en impose par sa large carrure gargantuesque, surmontée d'une figure d'ange ou de démon, chapeautée de boucles brunes. Campé devant sa rôtissoire, tout aussi impressionnante, il s'affaire à retourner ses pièces de viande. Vêtu hiver comme été, en maillot et bermuda, protégé par un grand tablier de légionnaire, n'en dépasse qu'une parcelle d'anatomie de piliers de rugby, enchâssé dans chaussettes et croquenots. Ancien rugbyman, ancien boucher, il connaît son métier. Sous le joug de la pince et du tisonnier, maniés avec dextérité, les pièces de barbac effectuent des volte-face, les dorant de tous côtés, affolant de leur suin qui s'écoule les braises qui les lèchent. Auréolé d'une légende de butor, il amuse car sous ses airs de pezzouille, l'homme est généreux et sa cuisine est bonne. On le brocarde pour avoir tancé une parisienne de passage qui en fut tout offusquée. « Le téléphone, dehors !» Sans même se retourner de son grill, le ton bourru et le pique-feu brandi en direction de la sortie. La sonnerie du téléphone et le téléphone lui-même étant proscrit dans son antre. La pièce de l'auberge renvoie Marie dans le pêle de son grand-oncle, pièce sombre côtoyant le four. Lui vient en mémoire olfactive un mélange de bois brûlé, de pain aigrelet, de pommes sûries. Le brouhaha du groupe qui s'installe aux tables, disposé spécialement en fer à cheval pour l'occasion, ramène Marie à l'instant présent. Frôlement des chaises, froissement vestimentaire, tintinabulie des verres, cliquetis des couverts, interpellations, sollicitations à rapprochement, de bonne entente. Tout ce remue-ménage venu de l'extérieur procure une fraîcheur forestière à l'air confiné de la salle. L'éventail du menu n'est pas large, mais les morceaux sont de choix. Marie opte pour une raclette. Jérémy et Julien choisissent chacun une entrecôte. Le festin, arrosé de bon vin, émoustille jusqu'à l'étourdissement les hôtes réjouis. Puis, au fur et à mesure que les ventres sont repus, s'installe la torpeur indolente. Le brasier au repos libère Carcasse pour un moment de partage avec ses convives. Une goguenardise par-ci, une gouaillerie par-là. À mesure qu'il approche du trio, imposant et massif, les enfants se tassent imperceptiblement sur leurs chaises. Ils stoppent près de Julien, dont il connaît bien le père, de même formation de bouche. Puis son regard bloque sur l'assiette, inspectant dans un lourd silence les résidus de sa belle entrecôte persillée découpée dans la loyau. Alors de son index inquisiteur, tapotant l'outrageux déshabillage de gras laissé effrontément sur le côté, il m'origène, migrognard, migoyeur, le gamin tétanisé. « Ton père t'a pas appris à manger ça ?»
Balade en Amérique, non, balade en numérique, de Christian Lamorte. Depuis 15 ans, je tiens un magasin de photographes à Faverges. Pour les autochtones, je serai toujours un étranger. Savoyard quand même, mais pas Beaujeu. Mais tout se passe gentiment. Un photographe voit passer tant de tirages qu'il devient pour ses clients le détenteur de leurs moments secrets et de leurs bons souvenirs. La quasi-disparition de l'argentique a changé mon quotidien comme mes rapports à la clientèle. Depuis le passage à la photo numérique, je gagne ma vie en vendant des GoPro que les skieurs parisiens qui ont oublié la leur à la maison m'achètent pour ne pas rater leurs vacances. La mise en scène et le film de leurs exploits prend plus de temps que de les vivre. Et moi, ça me va bien. Ça fait tourner ma petite entreprise. Les demandes de prise de vue se font rares. Un mariage parfois, même s'ils se font rares aussi, ou, une fois l'an, pour les classes de l'école élémentaire. Alors, quand Henri est venu me voir, j'ai tout de suite été intéressée. Il avait vendu l'idée d'une application informatique à l'Office du tourisme pour guider les randonneurs à ski dans le massif des Bauges. Un guide de plus, me direz-vous ? Oui, mais moderne, disait Henri pour me rallier à son idée. Avec un simple téléphone portable, tu peux découvrir les endroits secrets du parc en toute sécurité et rapporter des images qui feront des envieux, et donc de futurs clients. En gros, il reprenait la partie technique que développent la plupart des guides en kiosque. Une carte topographique, le tracé de la voie de montée, de descente, la cotation des difficultés et de l'exposition. Henri me demandait de me charger de la partie originale du projet, écrire un descriptif de chaque balade qui intéresse autant le sportif que l'historien, l'amateur de paysage, que l'adepte de course d'orientation. Il voulait de plus une belle vue d'ensemble qui donne une troisième dimension à l'itinéraire dans sa globalité. Puis une série de photos originales ou de courtes séquences filmées à chaque point remarquable de la course. L'idée était de sécuriser les trajets tout en introduisant l'aspect ludique sans lequel on ne saurait attirer la belle jeunesse connectée d'aujourd'hui. Tout le monde y trouvait son compte. La connexion avec l'Office de tourisme permettrait, grâce à l'analyse des photos prises par les randonneurs, de connaître l'enneigement et éventuellement de retrouver les égarés. Nous nous sommes mis au travail. Pour élaborer un prototype, nous avons choisi les pentes de Chorionde et de la Sambuie. On partait le matin aux aurores. On laissait la voiture au parking du télésiège. On chaussait les skis bien avant l'ouverture de la station. La course était toujours rapide, précise, silencieuse. Chacun savait ce qu'il avait à faire. Henri vérifiait ses cartes, prenait des notes sur la qualité de la connexion, l'enneigement. Je prenais des photos, tournais de petits films, profitant des lumières exceptionnelles du jour naissant. De fil en aiguille, le projet se développait dans deux directions. D'abord la carte postale, la photo qui donne envie d'y être, la découverte à portée de spatule d'un lieu ignoré que chacun traverse, ignorant son histoire. La mine de fer de la Sambuie en est le bon exemple qu'il fallait contextualiser, faire revivre dans le paysage. La sueur de la montée devait avoir l'âcre parfum de l'effort du mineur cassant son minerai. Et puis cette aventure, il fallait se la raconter, la mettre en scène pour épater les copains du bureau, leur donner de l'envie, leur montrer la profondeur de la randonnée, la communion avec la nature et le paysage. Mieux que le hors-piste à portée de remontée mécanique. Ce petit plus, je l'apportais avec des prises de vue enchaînées que l'usager de l'application pouvait utiliser pour construire un clip en ajoutant ses photos et avec l'assurance de bonnes images. On rentrait juste à temps pour prendre une douche et un café et ouvrir le magasin à 9h. Le projet prenait forme. Une première ébauche fut présentée à la direction de l'Office de tourisme qui se montra enthousiaste et nous passa commande pour compléter la liste de courses dans ce secteur du parc régional. L'arc à l'eau, le bonnet de Churel, la dent des portes. C'était un travail important. Aussi, l'Office du tourisme nous consentit une avance sur frais. La contrepartie était une association dans la conception de notre application. Henri était aux anges et voyait déjà miroiter les bénéfices de la start-up que nous allions créer pour la recherche de nos futurs clients, le démarchage de nos sponsors, la gestion de nos dividendes et autres droits à l'image. D'avoir Henri pour gestionnaire de l'équipe, pour moi c'était plutôt sécurisant. En revanche, je redoutais les interventions de l'office sur notre produit. Je souhaitais vendre une image du pays cohérente avec ce que j'imaginais être son rayonnement en France et à l'international, et non pas le savoyard vu par le parisien jacobin, ou pire, vu par un local qui croit connaître ce qui va plaire. Pour être clair, je voulais promouvoir un territoire riche d'inventions, de joints à haute pression ou du tissu des scaphandres des cosmonautes d'Apollo, et non pas limité à la tome des Bauges, même si j'en suis friand. J'ai utilisé une partie de l'avance sur frais pour m'adjoindre les services d'Yves, le Paganini du film court. Ce magicien donnait vie à mes images. Grâce à lui, un cinéaste débutant, voire médiocre, pouvait, en utilisant les séquences filmées par la caméra fixée sur son casque, obtenir un joli clip de 3 à 5 minutes de ses aventures au paradis blanc. Grâce à un algorithme subtil, Yves mélangeait mes prises de vue professionnelles avec les images de nos clients qui découvraient leurs propres aventures, comme au cinéma. Là, j'ai dû résister à la pression de l'Office du tourisme. Devant la qualité des premiers tests, ils ont souhaité forcer sur la touche savoyarde et proposer automatiquement des musiques locales pour accompagner le clip. Du Chable au piano jouant une réduction de Peer Gynt, Simon roquant Étoile des neiges, ou Cabrel racontant La Dame de Haute-Savoie. Je connais peu Du Chable, comme Cabrel, mais je respecte Simon. Je crois qu'il avait mieux à dire que les savoyardises dans lesquelles ses producteurs parisiens l'avaient enfermé. Je me suis donc opposée à leur vision du local, arguant que le silence de la montagne, à peine entamé par la respiration du grimpeur ou le chuintement des skis à la descente, était le meilleur des accompagnements, et que s'il fallait à tout prix de la musique, ce serait du domaine de la liberté de nos clients aventuriers. L'étude de marché qui mettait en avant le nombre potentiel de vues sur YouTube et les possibles retombées financières tant en royalties qu'en tourisme de masse m'a forcée à l'éloquence, mais j'ai tenu bon. L'Office du tourisme a souhaité une inauguration avec petit four et invité de marque. J'ai bien aimé le discours de notre maire, qui aurait parfaitement convenu pour la création d'un pôle médical ou la remise des prix du concours de belote du Club des aînés. J'ai surtout apprécié la mondeuse, et j'ai eu de la peine à réciter mon petit compliment. Les remerciements à nos chers sponsors. L'application fait des adeptes, surtout dans le réseau des offices des stations environnantes, heureuses d'enrichir et de diversifier leurs offres auprès de leur clientèle d'habitués. On a eu 200, puis 500 abonnés. Et de fil en aiguille, on est grimpé à 1400. Une belle réussite. L'office était surtout satisfait des produits dérivés. Les films issus de l'application totalisaient fréquemment 1 000 000 de vues sur la toile. Un bon retour sur investissement selon nos financiers. Hier matin, au café, je suis tombée sur Dédé, perplexe devant le dernier clip de Sting. On dirait la Sambuie, tu trouves pas? Avec en arrière-plan les Aravis, et là, le Mont Blanc. C'est bien possible, tu sais qu'il vient souvent en famille au Grand Bornand. Sur mes images, le chanteur de Police avait composé une ballade délicate. Un accompagnement aérien à la guitare acoustique, un contre-chant au saxophone soprano, planant, et sa voix à faire fondre la banquise. Henri est arrivé la mine en tiroir-caisse. Il a offert les cafés. Le seuil de la célébrité a du bon. Moi, je vais les laisser se dépêtrer avec les droits d'auteur. Juste savourer en boucle d'avoir semé cette envie créatrice et engendré tant de beauté.
De Henri Pochat, j'étais là, c'est tout. L'Echerenne, 14 juillet. Le grand Babert a quitté le bal vers les 4 heures du matin. L'orchestre jouait un vieux tube de François Valéry. Je crois que c'était Dreaming Blue ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas très important. Il a bu un dernier whisky avec Madame Gomez, qu'il trouvait toujours aussi belle, malgré son âge. Et il s'est enfoncé dans la nuit après lui avoir raconté un tas de sornettes auxquelles elle ne croyait plus. Il était excité comme une puce avec au fond de lui des envies de folie. Madame Gomez l'a regardé partir avec soulagement parce que le grand Babert devenait intenable. Il n'avait pas cessé de lui tourner autour toute la soirée,
au point d'en devenir pénible, elle n'avait aucune envie de s'apitoyer sur son sort. Quand il avait un canon dans le nez, Babert racontait toujours la même histoire, qui finissait toujours de la même manière. Voilà plus de 2 ans que Babert embêtait Madame Gomez avec les mêmes choses qu'elle connaissait par cœur. « Mais Babert, on s'en fout, tu nous l'as déjà raconté !» Babert profitait de toutes les occasions pour lui faire du gringue. Et la dernière fois, la pizzeria, la grolle, ça s'était mal terminé, elle l'avait giflé. Ce soir-là, donc, le grand Babert s'est mis à courir sur le toit de toutes les voitures, comme ça, sans raison, les cabossant avec ses bottes à clous, celles qu'il enfilait pour ressembler à un cow-boy. Et pour finir, il s'est trompé de bagnole. Il a cassé sa clé dans le Neyman, mais au bout d'un moment, il a réussi à démarrer. On a entendu des bruits de tôle froissée, des jurons et un chien qui hurlait à la mort. Babert a traversé le village, saluant le cimetière à coups de klaxon. Il a fait des dérapages vers la base de loisirs au bord du Chéran et vers la coopérative laitière de l'Echerenne, où il avait travaillé pendant 17 ans. La bouteille de poire s'était glissée sous la pédale du frein. Babert a eu beau écraser la commande, la voiture ne répondait plus et a fini sa course contre le lampadaire à côté du bureau de tabac. Emprisonné dans un tas de tôles, Babert râlait. Sous le châssis se déversait un liquide noirâtre qui prit au piège un pigeon trop curieux. Madame Gomez quitta le bal vers 5 heures du matin. La place du 8 mai était vide. Le grand Babert ne lui avait pas lâché la grappe de toute la soirée, comme à chaque fois. Au loin, des lumières bleues clignotaient. Elle pensa tout de suite à un accident. Chaque année, il y avait des problèmes avec le bal. L'année dernière, un quart de touriste hollandais avait fini sa course dans la vitrine du Café des Bauges. Quand elle arriva sur les lieux du crash, elle éprouva un sentiment de gêne qu'elle ne pouvait expliquer. Elle s'était débarrassée de Babert en lui offrant une bouteille de poire et de fil en aiguille. Elle avait réussi à lui échapper sans qu'il s'en rende compte. L'autoradio braillait une chanson de Mylène Farmer que le pompier de service n'arrivait pas à stopper. Une histoire de libertine. Emprisonné dans ce qui n'était plus qu'un tas de tôles, Babert, inconscient, râlait. Sa jambe droite faisait un drôle d'angle avec le reste de son corps. La botte à clous avait été éjectée dans le caniveau. Quand les pompiers arrivèrent, un groupe de badauds regardait la scène sans oser intervenir. Peur de faire mal, sans doute, et envie modérée de dégager Babert de la carcasse fumante prête à exploser. Les pompiers vidèrent 3 extincteurs sur la voiture et dégagèrent le blessé qu'ils étendirent sur un brancard. Le visage de Babert avait une teinte blafarde. Un filet de sang coulait à ses lèvres. Elle eut un haut-le-cœur en voyant la jambe de Babert pliée sur l'asphalte et son corps agité de convulsions. Madame Gomez se sentait coupable. Elle n'avait pas essayé de retenir Babert alors qu'il était déjà dans un état second. Ce n'était pas glorieux de sa part. Il y eut un moment de panique quand l'infirmier des pompiers se rendit compte que le cœur de Babert venait de s'arrêter. Les noctambules qui s'étaient agglutinés autour du lieu de l'accident criaient dans tous les sens et chacun donnait son avis. Madame Gomez s'approcha du pompier qui essayait de pratiquer un bouche-à-bouche maladroit pendant que son collègue massait vigoureusement le thorax du grand Babert. Elle posa sa main sur le mourant. Comme par miracle, le cœur de Babert se mit à battre de nouveau. Babert ouvrit un œil, puis l'autre, et réclama un grog. Ce furent ses premiers mots au moment de son retour à la vie. Madame Gomez essaya de négocier le grog auprès d'un capitaine de gendarmerie qui bombait le torse. La réponse fut nette et précise, pas besoin d'insister. Le capitaine de gendarmerie demanda qu'on éteigne l'autoradio. Les paroles de Mylène Farmer s'échappaient encore par la portière et les fenêtres du quartier s'allumèrent à tour de rôle et une voix encore plus forte que celle de Mylène Farmer cria « Tu la fermes ta gueule !» Le gendarme était passablement énervé. Il n'avait pas dormi depuis 48 heures et on était venu le chercher en plein milieu de la nuit alors qu'il s'apprêtait à trouver le sommeil. Il en avait assez de tous ces abrutis qui consumaient leur vie n'importe comment, qui l'obligeaient à être là chaque fois qu'il y avait un problème. Il balança un violent coup de pied dans la portière qui se détacha du véhicule, tombant sur la cheville de Madame Gomez. Elle hurla.
le tendon d'Achille amoché par le choc, et voilà qu'à son tour, Madame Gomez gisait sur l'asphalte à côté du grand Babert. Elle n'avait pas envie de parler à la lune ou à qui que ce soit. Le cœur gros d'amertume et de colère est blessé dans sa chair. Le grand Babert réclamait un prêtre car il sentait ses dernières forces le quitter. Le capitaine hocha la tête et fit évacuer tous les curieux. Un dernier coup de pied fit taire le poste. À présent, il avait la situation en main. Il verbalisa un curieux qui photographiait le blessé et prit la main de Madame Gomez pour tenter de la relever. Elle boitait bas.
« Oh, je suis désolée !»
lui dit-il tout à coup subjugué par le charme qui émanait de sa malencontreuse victime. Pendant que le grand Babert s'en allait sur un brancard en direction des urgences, le capitaine rapporta de sa camionnette un rouleau de Chatterton avec lequel il confectionna une attelle de fortune. Madame Gomez, parcourue elle aussi d'un trouble étrange, fit signe au capitaine de pencher son oreille vers elle et lui glissa quelques mots qui scellèrent entre eux une entente pleine de promesses. Le grand Babert décéda vers 7h30 à l'hôpital de Chambéry sans que le prêtre réclamé n'ait eu le temps d'arriver. L'interne de garde, débordé, n'avait pas remarqué que Babert, secoué de convulsions, avait débranché la voie centrale qui maintenait son corps en vie. Une embolie fit le reste. Ils avaient trouvé une piole à l'hôtel Arcalo de Jarzy. Le gendarme n'était pas connu là-bas et comme il était marié, c'était un endroit discret pour abriter leur rendez-vous. Madame Gomez l'avait suivi sans broncher, confiante. Au petit matin, après une relation trop violente, le capitaine de gendarmerie décéda d'une rupture d'anévrisme au moment où Madame Gomez lui déclarait qu'elle voulait bien faire un bout de chemin avec lui et que, de temps en temps, elle serait fière qu'il l'emmène au stand de tir car les armes à feu l'avaient toujours fait fantasmer. À 9h du matin, les pompiers se réunirent au café des Bauges pour le petit déjeuner, comme ils en avaient pris l'habitude après chaque nuit de garde. En garant la camionnette, le chef Mouchard écrasa un chat qui dormait derrière une poubelle. À 10h du matin, les employés municipaux commencèrent à démonter le podium et à balayer la place. La cité allait retrouver son calme. Ils obligèrent un clochard qui ronflait derrière la fontaine à déguerpir au plus vite. À 11h30, les pompes funèbres furent appelées pour prendre en charge deux défunts de sexe masculin, décédés durant la nuit. On tira au sort celui dont on s'occuperait en premier, la famille du grand Babert, qui refusait tout dépassement d'honoraires, en plus du forfait des obsèques, demanda qu'on fasse simple et pas cher. 17 juillet à 14h30, un escadron de gendarmerie rendit les honneurs à son capitaine dans la cour de la caserne, avec roulement de tambour et ultralala. Au moment de la sonnerie aux morts, Madame Gomez se locha une balle dans la tête avec l'arme de son amant d'un soir, récupérée dans le tiroir de la table de nuit. Ce fut son seul carton. Il y a 3 ans que ces faits se sont passés. Je ne raconte pas souvent cette histoire qui a marqué ma vie de journaliste. J'étais là, c'est tout. C'était mon travail. Vous pouvez retrouver ces textes et d'autres dans le recueil édité par Radio Alto et en vente au studio à l'Échrenne. Nous avons entendu de Marie-Christine Thévenet, Clair de lune au Nivolet, de Christian Lamorte, Balade en numérique, et de Henri Pochat, J'étais là, c'est tout. C'était Écoutez lire. Une émission de Radio Alto.